France Musique. Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Émilie, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, on va faire de belles découvertes et tout de suite on va planer. C'est doux, c'est pop, c'est Peter Broderick qui revisite l'œuvre d'un autre compositeur, Arthur Russell. Alors c'est un disque un peu inclassable. Je ne sais pas si vous connaissez Arthur Russell qui était violoncelliste. Non, ça vous
non,
dit rien.
Non, non,
compositeur de musique dite contemporaine, d'indé rock, de country, de new wave.
Ah oui, un peu tout.
Oui, il travaillait avec Bob Wilson. Il était à l'avant-garde new-yorkaise. Il a connu Allen Ginsberg. Il est mort du sida en 1994 et il laisse seulement 3 albums. Et Bob Wilson lui avait commandé un opéra. Au début, ça devait être avec Philip Glass. Philip Glass avait dit non, moi je peux pas, mais allez voir Arthur Russell. Et en fait, l'opéra ne s'est pas fait. La collaboration a abouti à une impasse et c'est bien dommage. Et c'est Gavin Bryars qui a fait finalement la musique de cet opéra. Et aujourd'hui, c'est un autre compositeur, Peter Broderick, qui revisite l'œuvre d'Arthur Russell, parce que finalement, on n'a pas grand-chose. Avec l'ensemble O, ils ont repris des partitions, ils les ont réarrangées, réorchestrées. Et ça donne un disque très réussi. Vraiment un disque insaisissable, un mi-chemin entre plein de musique, et on va en écouter un autre extrait.
Thank you.
Peter Broderick revisite l'œuvre d'Arthur Russell. Réorchestration, nouvelle façon de présenter cette œuvre. C'est l'ensemble O qui nous propose ici ce très beau disque. C'est notre disque du soir.
France Musique. En piste contemporain. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
C'est le premier opus monographique consacré au compositeur Pascal Arnaud, dont je découvre la musique. Peut-être que vous aussi, vous la connaissiez, Rodolphe ?
Non, pas du tout. Je vois très bien le disque, oui. Parce qu'on l'a eu longtemps sur notre bureau.
Oui, on l'a même reçu plusieurs fois.
Mais oui.
Un double disque qui nous fait entendre une belle part de sa production. Lieder, quatuor, sonate pour violon, œuvre pour piano à quatre mains, comme vous venez de l'entendre à l'instant, avec la dernière de ses 5 danses allégoriques. Chacune s'inspire d'une chanson. Ici, vous avez entendu des bribes de il court le furet, et sur le pont d'Avignon. Ça ne vous avait pas échappé.
Non, bien sûr.
11 pièces réunies ici et parmi elles un cycle chanté qui donne son titre à l'album L'humanité ébranlée. 5 leaders pour soprano et piano qui abordent tous un fait marquant de notre histoire, le 11 septembre 2001, le confinement, l'explosion de Beyrouth ou encore l'incendie de Notre-Dame. Le sort d'une cathédrale, ça fait partie d'un cycle qui s'appelle L'humanité ébranlée de Pascal Arnaud avec la voix d'Amélie Raison et de Igmar Lazare. Vous avez entendu d'ailleurs les cloches à la fin accompagnées d'accords au piano sur un poème de Gauvin Serre avec quelques citations de Perrotin ou de Guillaume de Machaut. Pascal Arnaud est un compositeur né à Niort en 1966. Il a fait ses études à Poitiers. Il a appris la composition en autodidacte. On nous dit que ses références sont les musiques de Messiaen, Dutilleux, Greff, Berio, Xenakis, Perth, mais qu'il aime aussi dans le passé Britten, Shostakovich, Prokofiev ou Poulenc. C'est difficile de vous définir son esthétique, mais il y a quand même un parfum de musique française qui se dégage de sa production. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on lit l'histoire des œuvres enregistrées ici, on comprend que la musique de Pascal Arnaud s'inscrit dans son époque, dans son temps, puisqu'elle s'inspire quasi à chaque fois de notre histoire collective, à l'instar du quatuor à cordes Fragments de mémoire, composé en 2018, quelques jours après l'attaque terroriste du Super U de Trèbes où l'officier Arnaud Beltrame avait trouvé la mort. Fragments de mémoire, c'est la musique de Pascal Arnaud qui est jouée ici par le Quatuor Hounslow. Et ce sont deux disques pour découvrir la musique de ce compositeur. Ça s'appelle « L'humanité ébranlée ».
Est-ce que vous êtes tout ébranlé ?
Eh bien, un petit peu à l'écoute de cette musique et des sujets qu'elle aborde, absolument.
Eh bien, moi, je vous offre une efflorescence. Elle est toute jeune, la compositrice Apolline Jésus-Prêt. Elle est née en 1995 et c'est son professeur, Claude Ledoux, qui signe la pochette de ce disque.
Ah, c'est une belle...
Mais oui.
Un beau texte de présentation.
Et absolument, et en plus c'est un texte très incarné. Il dit « Je me souviens de cette frêle jeune femme qui un jour s'est présentée dans ma classe de composition. D'emblée, une force de persuasion intense suintait de ses désirs sonores. Elle savait déjà ce qu'elle voulait. » Et c'est vrai que lorsqu'on écoute ce disque, eh bien on se dit on n'a pas affaire à une œuvre de toute jeunesse. On a l'impression d'une œuvre déjà très maîtrisée, très bien composée. C'est une musique qui subjugue, une musique de la vibration, de l'oscillation aux vitesses multiples, nous dit le compositeur. Et on trouve dedans une pièce impressionnante qui s'appelle « Essoum Mossoul », une très belle pièce. D'ailleurs, le titre fait référence, nous dit la compositrice, aux galeries présentes sous la ville de Mossoul et façonnées par l'État islamique pour se protéger des frappes aériennes. L'œuvre est construite en forme d'arche, c'est en 5 parties, et on va écouter cette œuvre. On trouve d'ailleurs sur ce disque une œuvre de Claude Ledoux à la fin, le professeur, et ce disque est publié par l'ensemble Hopper.
Good.
Essumo Soul, c'est la musique d'Apolline Jésus-Prêt, ici interprétée par l'ensemble Hopper.
France Musique, en piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Le Baltic Neopolis Orchestra est un orchestre polonais qui fait énormément pour les nouvelles musiques de son pays et il fête son 15e anniversaire en lançant une série discographique autour de grands concertos polonais, volume 1, avec un florilège de premiers enregistrements mondiaux. Certaines pièces d'ailleurs ont été écrites pour l'orchestre. C'est le cas du Neopolis Concerto de Paweł Lukaszewski, dont on vous a souvent parlé dans cette émission. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Rodolphe, mais vous avez passé une de ses symphonies chorales.
Oui, ça me dit quelque chose de très impressionnant,
oui,
pour
absolument.
Grand chœur, orchestre.
Oui, et il est surtout connu pour ses œuvres pour chœur et ses œuvres sacrées. Ici, donc, un concerto à entendre. C'est vraiment un compositeur qui s'inscrit dans le courant de la tonalité renouvelée. Également pour l'orchestre et au programme de ce disque, une œuvre de Mikołaj Górecki, fils de Henryk Górecki. Et on découvre aussi la jeune compositrice née en 1989, Eva Fabianska-Jelinska. Elle nous laisse un concerto pour alto qui date de 2015. Salut. Lui a été inspiré par le temps de l'avant. Trois mouvements, on part du chaos pour, dans le final, emprunter un chemin de lumière. Le chaos du début de l'œuvre, le voici. « Premier mouvement du concerto pour alto d'Eva Fabianska-Jelinska par Andriy Vitovich avec le Baltic Neopolis Orchestra qui lance donc une série consacrée au concerto polonais. Il y a une scène néotonale assez importante hein, en Pologne, c'est ce qu'on voit.
Mais
avec,
oui,
alors,
il y a
pas
festival,
que ça,
y a
évidemment.
Beaucoup de choses,
mais voilà, donc c'est ça, l'occasion de découvrir plusieurs compositeurs de Pologne.
Et voici le journal de la création. Bonsoir Laurent Villarem.
Bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie. On commence par une musique. Alors ne regardez pas mon conducteur.
Ah.
Est-ce que vous reconnaissez ? Ça a été immédiat, on dirait.
Ah,
mais oui,
oui,
c'est devenu un tube.
D'un matin de printemps ?
Oui,
Lily Boulanger.
C'est la musique de Lily Boulanger.
Devenu
cette semaine,
un tube, oui.
Dans le journal, on parle des compositrices françaises. Est-ce abusif de dire que Boulanger est la compositrice française la plus célèbre de l'histoire ?
Dans le passé ?
Ouais.
Ah, il y en a de plus en plus.
Ouais, Hildegard von Bingen.
Ah, vous
française.
Êtes vraiment dans le...
Ah, française.
Non, Melbonis, peut-être Lily Boulanger est plus connue.
De nom, certainement, ouais.
Alors, je vous parle de ça, car il y a trois grandes créations orchestrales durant ce mois d'avril de grandes compositrices étrangères. L'Orchestre de Paris donne une pièce nouvelle d'Hélène Grime le 10 avril, puis une création française d'Ung Tsu Chin les 17 et 18 avril, et l'Orchestre de Chambre de Paris interprète Dance d'Anna Klein avec la violoncelliste Camille Thomas. Le site Backtrack a fait le top 10 des compositeurs contemporains les plus joués dans le monde. Vous savez combien il y a de femmes dans le classement ?
Zéro.
Alors le numéro 1, c'est John Williams. Le numéro 2, c'est Arvo Pärt. Le numéro 3, ça va vous faire plaisir, Émilie, c'est Jörg Widmann.
Ah,
ça vous fait
très
plaisir,
bien, ça me fait plaisir.
Et il y a 4 femmes. Sofia Gubaidulina,
ah, oui.
Caroline Shaw, et Ung Tsu Chin et Anna Klein qui sont donc jouées ce mois-ci.
On a été mauvaise langue.
Mais il n'y a pas de française ni de français d'ailleurs. Mais on en parle après car le problème est plus vaste. Car en réalité, la majorité des compositrices jouées en France sont d'origine étrangère. On se réjouit d'entendre notamment le 29 avril Dance d'Anna Klein par l'Orchestre de Chambre de Paris et la violoncelliste Camille Thomas. Dance d'Anna Klein est joué le 29 avril au Théâtre du Châtelet. Alors, où sont les jeunes compositrices françaises ? Je vous ai épargné la chanson de Patrick Juvet.
Ouais, on aurait bien aimé. Allez-y.
Allez, c'est parti. Non, non, non. Il y a un chiffre incroyable. En 20 ans, il n'y a eu que 2 compositrices françaises dans la classe de composition au Conservatoire National Supérieur de Paris. C'est Claire Mélanie Sinhubert et Manon Lepauvre. C'est fou, non ? Est-ce parce qu'elles n'osent pas se présenter au concours ? On va appeler Yanaël Pasquier, l'actuel chef du département écriture et composition du Conservatoire de Paris. Mais tout d'abord, je vous fais un petit récapitulatif historique. Le conservatoire est mixte dès sa création en 1795. Mais les femmes doivent attendre 1850 pour étudier la composition. Ce n'est qu'en 1903 qu'elles peuvent concourir pour le prix de Rome. Et c'est Lily Boulanger qui l'emporte pour la première fois en 1913, suivie bientôt par 4 consœurs en l'espace de 20 ans. Jusqu'en 1950, la radio avec ses commandes a permis l'éclosion de nombreuses compositrices comme Elsa Barène, Jeanne de Messieux, qui seront d'ailleurs jouées l'année prochaine à Radio France. Mais il semblerait bien qu'à partir des années 1960, les problèmes commencent. Dans son article « L'occultation des compositrices dans l'histoire de la musique » tiré du livre « L'égalité en actes » aux éditions MF, la musicologue Florence Launay affirme que la deuxième moitié du XXe siècle a été violemment hostile aux femmes. En cause, la promulgation d'une histoire de la musique officielle par les musicologues avec des géants masculins dont on reprenait et commentait sans cesse les œuvres, et l'omission systématique des œuvres des compositrices. Pire encore, avec les règnes des Boulez, Stockhausen, Berlioz et Nono, on assiste à une histoire presque exclusivement masculine. Partant du précepte, disons-le misogyne, que la création musicale est désormais affaire d'abstraction et de mathématiques, les compositrices sont souvent reléguées aux œuvres pédagogiques ou de moindre envergure. Il est d'ailleurs significatif que nombreuses, comme Eliane Radigue, se tournent vers l'improvisation et les musiques électroniques. Véritable terrain vierge à défricher. On appelle tout de suite Yanaël Pasquier, le directeur du département écriture et composition du Conservatoire de Paris. Bonsoir Yanaël Pasquier.
Bonsoir.
On a évoqué le fait qu'il n'y avait eu que 2 Françaises inscrites dans la classe de composition du Conservatoire de Paris en 20 ans. Comment est-ce possible ?
Alors en effet, c'est tout à fait vrai. Alors déjà, il faudrait rappeler quelques chiffres, c'est que dans les classes, il y a 70% d'étudiants qui sont de nationalité étrangère et pas plus de 20% de compositrices. Comme vous venez de le dire, depuis les années 50, plusieurs travaux de musicologues, on peut citer Malocourt-Baron et Iso Petit, ont montré que les compositrices dans les classes de composition n'ont jamais été plus de 20% des effectifs. Pour prendre l'exemple de la classe de Messiaen, ça ne dépassait pas les 15% sur toute la période. Aujourd'hui, on est toujours à peu près sur ces statistiques-là quand on compte les compositrices de nationalité étrangère. Mais le nombre de Françaises sur toute la deuxième partie du XXe siècle a toujours été très faible dans les classes, malheureusement.
Alors, à quel niveau du cursus cela se joue-t-il pour appartenir, pour les femmes françaises, à l'élite des conservatoires supérieurs ?
Eh bien, la structuration des conservatoires en France fait qu'il y a deux CNSMD, il y a Paris et Lyon, et ces deux établissements fonctionnent avec des systèmes de concours d'entrée. Et là, aujourd'hui, le problème qu'on voit, c'est qu'on manque de candidates.
Alors, comment vous l'expliquez ?
Eh bien, il faut se préparer au concours, et pour se préparer, il y a les établissements qu'on appelle de préparation, d'enseignement initial, les conservatoires à rayonnement régionaux, les CRR. Il y en a 44 en France, et dans une très récente étude du SMC, Syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine, on voit qu'il y a encore 8 CRR en France qui n'ont pas de classe de composition instrumentale ou vocale, ou encore qu'il y a 6 CRR qui n'ont aucune classe de composition. Donc, si on a fait cette étude en France, si on veut approfondir la composition, il y a pas mal de territoires où il n'y a aucune solution. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on crée des classes de composition vraiment sur tout le territoire pour pouvoir drainer et apporter des candidatures à toutes les écoles d'enseignement supérieur.
Donc vous diriez que le problème est le même pour les hommes français ?
En effet, il y en a un tout petit peu plus que de candidates, mais on a extrêmement peu de candidats français.
Alors en 2003, il y avait eu un festival Sounds French à New York et une photo montrait Dutilleux, Boulez, Dusapin et beaucoup d'autres compositeurs ensemble pour représenter la musique contemporaine française et il n'y avait aucune femme. Est-ce qu'on ne paye pas les frais aujourd'hui d'une politique misogyne ?
En effet, on a pu récolter des témoignages de compositrices formées dans les classes jusque dans les années 70 qui témoignent de propos ou d'attitudes misogynes dans certaines classes. Ça veut pas dire que tous les profs étaient misogynes. Mais donc, après, à la date de cette photo, en 2003, j'y étais pas.
Oui.
Donc j'en sais rien. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle de l'histoire des classes, tout comme la société, il y a une chose dont on peut être sûr, c'est qu'il n'y avait pas de prise de conscience ou d'intérêt pour la féminisation du métier de compositeur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a changé. Mais comme partout, aujourd'hui, la féminisation des métiers, on en est conscient, il faut le faire. Et il y a encore beaucoup de boulot.
Yannaëlle Pasquier, vous regardez vers le futur. Comment créer une nouvelle génération de compositrices françaises ? Quelles sont les actions mises en place ?
Aujourd'hui, on cherche à avoir évidemment des programmations paritaires. Néanmoins, il faut encore une fois susciter des vocations. Donc, il est évident qu'il faut avoir des modèles. Et donc, il faut continuer cette politique volontariste de redécouverte des compositrices. Il faut les mettre en avant. Enfin, c'est comme pour la direction d'orchestre. Aujourd'hui, quand on regarde les programmations, on a beaucoup plus de chefs d'orchestre, donc on peut imaginer que petits, des enfants, se disent « en fait, c'est possible, j'ai le droit de le faire », et donc les choses vont changer. Après, c'est sur un temps très long, mais typiquement, il faut absolument que l'État s'engage, dote les CRR de moyens pour former ses enfants. Le Conservatoire de Paris, c'est un établissement qui est très observé, mais on peut pas se substituer à l'État pour toutes ces questions-là.
Merci beaucoup, Yannaëlle Pasquier.
Merci, Laurent.
Pour illustrer la séquence, on termine avec une musique de Camille Pépin, qui triomphe dans le monde entier. Son concerto pour violon vient d'être joué à l'Opéra de Sydney, et son œuvre Les Eaux Célestes est donnée le 19 avril au Barbican Center par l'orchestre de la BBC. Un extrait des Eaux Célestes de Camille Pépin, qui est joué à Londres le 19 avril. On termine le journal par un petit festival qui se tient à Martigues. C'est le festival Vague Sonore, qui se donne les 10 et 11 avril. On appelle tout de suite son directeur, le compositeur Philippe Festoux. Est-ce difficile d'organiser un festival de musique contemporaine, qui plus est dans les Bouches-du-Rhône ?
Donc je ne sais pas si c'est plus facile ou moins facile de faire un festival de musique contemporaine qu'auparavant, ou dans le sud de la France, parce que Vague Sonore est un festival qui est assez jeune, 4 ans. Mais il faut, quoi qu'il en soit, faire toujours de la pédagogie avec les institutions, avec les politiques pour rassurer, pour que chacun puisse prendre ce risque aussi d'expérimenter, moi je dirais d'expérimenter l'inattendu, voilà, l'inattendu du son, des sons, je dirais même l'inentendu.
Quels vont être les grands moments de Vague Sonore 2024?
Alors, le festival démarre le 10 avril à Martigues avec Vents à emporter de Sébastien Béranger qui met l'électronique en temps réel et vidéo en temps réel. Le lendemain, c'est à la Maison des Jeunes et de la Culture de Martigues aussi, un programme autour de la vibration parce que j'ai travaillé avec des personnes sourdes en tant que compositeur pour la création d'une pièce avec eux. La soirée se terminera avec Rebond de Yannick Xenakis, donc un programme autour de la perception des vibrations. Et puis le 11 avril, ce sera le trio Polycorde à Miramas, trio de cordes pincées, avec deux créations au programme, une de Thomas Bordalero et une autre que j'ai dédiée au trio. Les mois suivants seront plutôt consacrés à des programmes avec l'ensemble Yin autour de pièces mixtes, notamment Luc Ferrari.
Merci beaucoup, Philippe Festou. Extrait des rebonds de Yannis Xenakis, qui sera donné au festival Vague Sonore les 10 et 11 avril à Martigues.
Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
Et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec Victorien Hodge et Colline Redon.
À réécouter sur francemusique.fr.